pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Beaucoup d'entre vous sont anxieux face à l'avenir.
Pierre Alban Thomas, dit Pat, son nom de résistant maquisard FTP, franc-tireur et partisan, pendant l'occupation.
Devant vous, la pollution dans tous les domaines, pollution physique, pollution morale. Des méthodes que vous désapprouvez, méthodes de financiers par exemple, qui veulent ramasser le plus d'argent possible. Vous avez des méthodes d'apprentis dictateurs, comme disons le Front National d'aujourd'hui. Hein. Vous avez tout cela devant vous qui vous met dans l'anxiété. Nous n'avions pas de solution toute faite. Mais nous avions au fond de nous l'espérance que nous avons toujours eue que nous viendrions à bout des mauvais génies et que la phrase de Gaulle, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas, doit subsister en vous. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser atteindre par cette anxiété, il faut réagir, on peut se regrouper entre nous. On ne veut pas que notre avenir soit gâché par tous ces mauvais génies qui voudraient le faire et nous devons nous unir pour trouver des moyens de former une jeunesse nouvelle qui soit à la hauteur de nos espoirs.
Salut les amis, c'est avec ce message de Pierre Alban Thomas que s'ouvre ce reportage enregistré en 2015 au Musée de la Résistance et de la Déportation de Blois, mais reportage diffusé pour la première fois 3 ans plus tard, en 2018. Pat va aujourd'hui évoquer la résistance qui pour lui commence en 1940 quand il rejoint le réseau du Musée de l'Homme. En 1943, il passe à la lutte armée chez les FTP et monte un important maquis en 1944. Puis il fait la campagne d'Allemagne de 1945, les guerres d'Indochine et d'Algérie. Mais ça, ce sont d'autres histoires que Pat vous a déjà racontées dans cette émission. Aujourd'hui donc, retour sur l'occupation, quand Pat n'était pas encore considéré comme un héros de la résistance, mais comme un terroriste. Mais à l'été 1940, ce jeune homme qui n'a pas fait l'armée se demande bien comment s'opposer à l'envahisseur allemand.
J'étais contre Pétain, contre le fascisme. Je me posais des questions sur l'ampleur que pouvait prendre la résistance. Je suis resté un certain temps, j'avoue, perplexe. On les appelait les boches. Hein. On voulait pas des boches chez nous, et puis c'est tout. Hein. En 1943, nous avions été recueillis par, on n'appelait pas ça encore un maquis, mais c'était un groupe d'opposants au régime nazi, des communistes, dans la montagne, au sud de Naï. On avait 2 Allemands avec nous. Ils nous disaient, on sera certainement plus utile ici à faire des sabotages. On a fait sauter un pont à Tarbes. On a quelques malheureux pistolets, 1 ou 2 mitraillettes Sten, quelques mousquetons, on n'a rien d'autre. À la gendarmerie de Naï, il y avait un dépôt d'armes important. On va aller prendre ces armes. On a monté un commando. Les gendarmes ayant eu 2 tués quand même, alors ils ont envoyé plusieurs escadrons de gendarmes mobiles. La situation était intenable pour nous là. Alors il a été décidé de se séparer. Je rejoins le Loir-et-Cher. J'ai retrouvé des amis FTP. Ils m'ont demandé de constituer un groupe FTP dans la région de Saint-Aignan. Le groupe a grossi, il est devenu une compagnie à la libération. On a fait pas mal de choses, on a fait des attentats, des sabotages, des embuscades. On a participé au combat de Souem, voilà.
Entends-tu les cris sourds du pays qu'on entend?
pas se décourager, il ne faut pas se laisser atteindre par cette anxiété. Il faut réagir, on peut se regrouper entre nous et puis dire, eh bien voilà, on ne veut pas que notre avenir soit gâché par tous ces mauvais génies qui voudraient le faire, et nous devons nous unir pour trouver des moyens de former une jeunesse nouvelle qui soit à la hauteur de nos espoirs. Soyons motivés, motivés,
motivés. Les motivés reprennent le chant des partisans pour ouvrir cette heure en la compagnie de Pierre-Alban Thomas, avec au micro votre serviteur, JBD, au musée de la résistance et de la déportation de Blois, musée que Pat a créé avec d'autres résistants. Alors ce reportage date de l'été 2015, et si je ne l'ai pas diffusé à l'époque, c'est parce que l'enregistrement est raté. Le son est de très mauvaise qualité, mais quelques années plus tard, j'ai quand même envie de le partager avec vous, car ça vaut son pesant de cacahuètes. Pat et les autres résistants étaient très impliqués dans les actions pédagogiques du musée. Les résistants sont par exemple beaucoup allés dans les écoles. Et en cet été 2015, Laurent, le conservateur du musée, a organisé pour les jeunes d'un centre de loisirs une sorte d'atelier rencontre jeu de rôle avec Pat sur le thème, disons, résistance mode d'emploi ou la résistance pour les nuls. L'un des jeunes expose à Pat ce qu'il a compris des objectifs de leur atelier.
En début d'année 2017, un gouvernement a pris le pouvoir. Ce gouvernement réprime les jeunes, ne leur laisse aucune liberté et restreint la démocratie. Alors nous, un groupe de résistants, résistance de la jeunesse insoumise. Et donc on a monté ce groupe de résistance et on prépare un coup d'État, j'ai envie de dire, contre l'actuel président.
C'est quoi la résistance? Comment on en fait? Et surtout, quand et contre quoi? Au moment de cet enregistrement, Pat est un authentique résistant de 93 ans qui explique son parcours à des jeunes gens de 13 à 16 ans.
Bonjour d'abord, je suis heureux d'être auprès de vous. Je pensais que vous deviez être 17. C'était le nombre que nous étions lorsque j'étais dans un maquis des Pyrénées. Et nous avions deux Allemands avec nous. Alors je pense qu'il n'y en a pas parmi vous, mais enfin, c'était le cas en ce qui me concernait.
Les personnes qui avaient dépassé 30 ans, pour nous c'était des vieux, et on était surtout entre jeunes, mais on avait quelques personnes plus âgées qui avaient dépassé la trentaine, qui nous servaient de support et de conseil. Et ces gens-là nous ont été précieux parce qu'ils nous ont peut-être empêchés de faire des bêtises.
En 1939, j'avais 17 ans. Donc en 1940, lorsque les Allemands sont entrés, j'avais 18 ans. En 1942, j'avais donc 20 ans. Et en 1944, j'avais 22 ans. Pourquoi je vous donne tous ces détails? Eh bien, c'est parce que en 1940, alors que j'avais 18 ans, j'ai fait partie du premier réseau de résistance qui s'est constitué en Loire-et-Cher et qui avait pris pour nom France Liberté, créé par un de nos amis. J'étais à l'école normale de Blois à l'époque, un de nos amis de l'école normale, Pierre-Maurice Dessinges, qui était l'ami du colonel Houette, qui avait créé un réseau qui s'est appelé le réseau du Musée de l'Homme. Il l'avait créé avec Villedeux, qui était un ethnologue, et puis Germaine Tillon, une brillante ethnologue, elle aussi. Pedro nous avait dit, voilà, je crée ce premier réseau de résistance, que ceux qui veulent en faire partie me le disent. Et nous avons été un certain nombre à lui dire, on se met avec toi, alors dis-nous ce qu'il faut faire. Alors, que peuvent faire des étudiants qui n'ont aucun point de repère, qui n'ont aucun moyen d'armement, ni de transmission, ni autre? Eh bien, on a fait ce que tout étudiant peut faire, c'est-à-dire on a barbouillé des affiches, distribué des tracts, on a distribué des
documents qui nous étaient envoyés par nos mouvements de résistance. Et puis, on a fait passer des juifs et des prisonniers évadés sur la ligne de démarcation qui était le Cher et qui séparait la zone occupée qui était au nord du Cher de la zone non occupée qui était au sud du Cher. Voilà ce qu'on a pu faire à ce moment-là.
Français, quiconque parmi vous participe au groupe de résistance compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles.
En 1940, le maréchal Pétain ordonne aux Français de ne pas résister. 75 ans plus tard, Pat explique à des jeunes pourquoi il a désobéi à cet ordre et est devenu un terroriste. Et les questions vont pleuvoir. Pat en essuie un feu nourri et répond d'une voix tellement forte que je me suis planté dans le son de l'enregistrement qui sature donc. Mais c'est comme ça.
Comment vous avez fait cette résistance ?
Comment était monté votre réseau ?
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être résistant ?
Qu'est-ce qui nous a donné envie d'être résistant ? Ah, c'est vraiment le A de l'ABC, hein, c'est le début. Bien. Alors, si j'ai bien compris votre situation, que vous avez inventée, mais enfin qui pourrait se réaliser, vous êtes des insoumis et vous vous insurgez contre un gouvernement qui vous prive de liberté et de démocratie. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui a bien pu nous motiver ? Eh bien, c'est un peu la même chose. Avant 1939, nous étions sous un régime parlementaire qui avait ses bons côtés, ses mauvais, mais qui quand même respectait les lois démocratiques. Or, en 1940, les troupes allemandes ont occupé la France. Un gouvernement de rencontre, donc, est venu s'installer et a pris la place du gouvernement légal. Il s'est fait élire légalement, lui aussi, hein, ça ne faut pas l'oublier, mais avec si peu de députés que nous n'étions pas convaincus du tout de la légalité de ce gouvernement. C'était le gouvernement du maréchal Pétain.
Français,
à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Pourquoi avons-nous résisté ? Eh bien parce que, d'une part, ce gouvernement, nous le considérions, nous, comme illégal. Deuxièmement, les troupes allemandes occupaient notre sol, qui était le sol de la patrie, et même si nous n'étions pas des patriotards, nous avions en nous ancré le souci de vouloir défendre le sol de nos ancêtres. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les troupes allemandes véhiculaient avec elles une idéologie que nous considérions comme exécrable, qui était le national-socialisme. D'après ce que nous savions, parce que certains d'entre nous avaient lu des extraits de Mein Kampf, écrit par Hitler lorsqu'il était en prison, et nous savions que le national-socialisme préconisait la supériorité de la race blanche sur toutes les autres, de la culture allemande sur la plupart des autres, et puis de l'idéologie, c'est-à-dire du régime dictatorial, fasciste, que nous avions combattu, nous, lorsque nous étions jeunes, que nous avions votre âge aujourd'hui. Alors voilà les trois principales raisons qui ont fait que nous nous sommes révoltés contre l'Allemagne et contre le vichisme. Il y avait une majorité de jeunes. Quand on est jeune et vous en savez quelque chose, on est tout bouillant, on fonce facilement, quelquefois même à tort et à travers, hein, ça dépend. On est tout prêt à agir, alors que les personnes plus âgées étaient beaucoup plus modérées, plus réfléchies et mesuraient les conséquences de nos actes. alors que nous, souvent, on ne les mesurait pas.
Français.
C'est aux jeunes qu'ils s'adressent d'abord, en leur rappelant que le premier devoir est d'obéir, et que pour refaire physiquement et moralement notre race, la patience est aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage.
Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleines de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts. Au fond, rien n'est changé, à part dans les rues. L'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes.
Paris, mon Paris, t'as changé de physionomie. Tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite. Dans l'avenue, tu vois les femmes avec leurs souliers de soie. Quand elles marchent sur les pavés de bois, font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Y a des pigeons sur l'opéra. Et y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit. Et le Pont Neuf n'a pas vieilli. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Y a de l'histoire, mesdames, la tour Eiffel.
Avec quels moyens vous avez résisté ?
Eh bien d'abord, par des tracts que nous avons diffusés, qui nous étaient envoyés de nos mouvements et de nos organisations de résistance. D'autre part, par l'écoute de la radio de Londres, qui nous permettait d'entendre en particulier le général de Gaulle et tous ses collaborateurs, j'aime pas ce nom-là, tous ses adeptes.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Pour nous, pain béni, quoi, c'était ce qu'on pensait au fond de nous et nous l'entendions par une personnalité importante que nous connaissions très mal, mais qui se dévoilait de jour en jour ou de semaine en semaine à nos yeux, et qui était le général de Gaulle. Alors, il y avait donc les tracts qui étaient à l'usage de la population, mais qui étaient à notre usage aussi, certains. Et puis, il y avait la deuxième chose, c'était ce que de Gaulle nous disait. Et puis, il y avait aussi notre culture qui nous revenait en mémoire et qui était de ne pas être le jouet des mouvements fascistes. Et nous avions en horreur ce terme-là, à tel point qu'on avait constitué en certains points des groupes antifascistes. Hein, c'était quelque chose de nous annoncer antifascistes. Parce qu'il y avait eu le fascisme de Mussolini, il y avait eu le nazisme allemand, il y avait le franquisme, puis maintenant on découvrait le pétinisme qui en était un succès d'année, mais qui était quand même élaboré à partir des mêmes données. Voilà, alors donc nous avions tout ça qui nous incitait à nous révolter contre les Allemands et contre Pétain.
Trop de Français regardent en arrière et croient encore possible un retour vers la facilité et l'ancien régime. Je n'admets ni le doute, ni les surenchères, ni les murmures, d'où qu'ils viennent.
Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée de sa lumière qui vénère tes bas. À ton appel suprême, ont répondu présent, maréchal.
la France.
Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Oui, par rapport à la presse, les médias officiels, la dépêche du centre, ces journaux-là, qui étaient soumis à la censure allemande.
Nous savions très bien que la presse de l'époque était soumise au dictat allemand, à la censure allemande, au dictat pétiniste et à la censure pétiniste. Ça, nous le savions pertinemment. Donc, nous la lisions en étant très, très suspects vis-à-vis de cette presse. Nous savions très bien que les informations qui nous étaient données étaient distillées par les services allemands et qu'ils étaient toujours en faveur de l'Allemagne. Il nous fallait, pour contrebalancer cette presse-là, écouter la radio de Londres, qui, elle, nous donnait une version tout à fait différente et à laquelle nous croyions. Et ça nous permettait, après ça, dans nos discussions avec d'autres personnes en qui nous pouvions avoir confiance, de dire « attention, attention, c'est faux ce que raconte la presse, la dépêche ». D'ailleurs, on l'appelait la salope, la dépêche de Tours, hein, qui était le journal officiel de la région, qui est aujourd'hui la Nouvelle République. Hein. Et on disait « attention, méfiez-vous, c'est faux ce qu'il raconte ». Parce que nous avons entendu, nous, la radio de Londres, et peut-être vous-même l'avez-vous entendu, et les faits sont différents. Ils étaient peut-être même aussi exagérés un peu du côté de Londres. Hein. Ça, toute bonne propagande en rajoute un peu. Mais néanmoins, ils étaient beaucoup plus proches de la réalité que la propagande allemande. Puis alors, il y avait aussi la radio qui était émise par les Allemands à partir de Paris, qu'on appelait Radio Paris, la survivance du Radio Paris d'avant-guerre. Et c'était un certain Jean-Hérold Packy qui était le principal personnage de cette radio, de Radio Paris. Et on disait, la radio de Londres disait, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
Radio Paris est allemand, Radio Paris ment. Radio Paris, Radio Paris est allemand.
À la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que vous donneriez le conseil de prendre les médias avec méfiance et de varier les sources d'information? Est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner?
Je ne peux pas le donner de cette façon-là, parce que la presse d'aujourd'hui, ce n'est pas la presse de l'époque. La presse de l'époque, elle était vraiment soumise au dictat allemand. La presse d'aujourd'hui, même si elle est parfois liberticide, elle est quand même beaucoup plus libre que, ça ne se compare pas, que la presse de l'époque. Donc on ne peut pas faire le parallèle entre les deux. Ce qu'il faut, malgré tout, c'est, dans la presse actuelle, essayer de prendre ce qui peut provenir d'une certaine, je dirais pas une certaine intoxication, pas jusque-là, mais une certaine propagande. En particulier, une propagande qui viendrait des milieux financiers et qui cherche à asseoir leur autorité sur les pays, sur les gouvernements, dont le gouvernement de la France, hein, qui dirige le monde. D'ailleurs, des gens se laissent aller quelquefois à avouer, comme Mitterrand l'a fait, comme Hollande l'a fait en disant notre ennemi c'est la finance. Ça n'a pas été suivi des faits. Et puis il y en a d'autres qui ont purement et simplement accepté la loi de la finance parce qu'ils y ont leurs intérêts. Je ne citerai pas les deux noms, mais vous pouvez les trouver vous-même.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français.
Édouard Daladier, président du Conseil, en avait dressé un portrait au vitriol.
Les 200 familles sont maîtresses de l'économie française et en fait de la politique française. Ce sont des forces qu'un État démocratique ne devrait pas tolérer. L'influence des 200 familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Elles interviennent sur l'opinion publique car elles contrôlent la presse.
À partir du moment où vous étiez en train de résister, c'était quoi votre sentiment à ce moment-là?
C'était qu'on voulait réussir. Hein. On voulait que la phrase du général de Gaulle, « La France a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre », se mette à l'épreuve et que nous soyons vraiment assurés, en fin de compte, mais on ne savait pas au bout de combien de temps, de gagner la guerre. Parce que la propagande hitlérienne disait « L'Allemagne et le national-socialisme se sont installés sur l'Europe, nous voulons faire la grande Europe pour 1000 ans. » Alors nous, on savait bien que ce n'était pas possible, mais malgré tout, il en restait toujours quelque chose. Hein. D'autant plus qu'on nous disait que l'Allemagne avait mis au point des systèmes nouveaux d'armes, en particulier on nous parlait du rayon de la mort à ce moment-là. Au fond de nous, on se disait, mais est-ce qu'ils n'en sont pas capables? Ils ont été tellement brillants dans leur conquête jusqu'à maintenant qu'il n'est pas impossible qu'ils aient vraiment ces armes nouvelles et qu'ils nous assujettissent à leur volonté. Alors ça, on était très, très anxieux face à cette possibilité-là.
Où va la France? Où va l'Europe? Monsieur Alphonse de Chateaubriand parle du drame français.
En ce moment donc, s'ébauche et se dessine une immense unité continentale d'un seul tenant politique et économique jusqu'à l'extrême pointe de l'Europe représentée par la France. Dernier bastion sur l'Atlantique de cet immense continent face à l'autre grand continent américain, je voudrais que tout ce que je viens de dire servît à éclairer à vos yeux le sens profond du mot collaboration.
Vos familles et les gens pensaient quoi du fait que vous résistiez?
Nos familles à nous.
Oui, et les gens en général.
La population française. Nos familles, c'était très varié, hein. Il y avait des personnes âgées de nos familles qui soutenaient entièrement l'action de leurs enfants. Et puis il y en avait d'autres qui étaient réticentes en disant « qu'est-ce qui va nous attirer comme ennui ?» Bon, alors vous voyez, c'est varié. Mais si on veut généraliser et dire « qu'est-ce que la population française pouvait bien penser face à ces balbutiements de la résistance ?» Pour la plupart, en 1940, c'était que ça risquait de nous attirer des ennuis plus que des avantages à la population. C'était l'idée de la majorité de la population. À tel point que le maréchal Pétain avait constitué ce qu'il avait appelé la Légion des combattants. Tous les anciens combattants de 14-18 qui s'étaient regroupés autour de lui parce qu'ils pensaient sérieusement qu'il allait rouler les Allemands et qu'il allait profiter de sa notoriété pour obtenir des avantages pour la France. Et il pensait que ce serait beaucoup plus bénéfique d'agir comme ça que de se révolter.
Combattants de 14 et combattants de 40, unis dans le même amour du sol natal, ont lui juré leur fidélité à la France régénérée qui va renaître de leur ferveur.
Alors donc, une partie de la population française suivait ce raisonnement-là. Je dirais même une majorité en 1940. Les choses ont évolué. Les troupes allemandes ont subi des échecs. Les troupes alliées ont progressivement grignoté du terrain. Et
l'espoir est revenu parmi nous. Donc, nous avons changé d'optique et une grande partie de la population française avec nous. Et c'est cette optique différente qui nous a permis, en 1944, de devenir majoritaire alors que nous n'étions que minoritaire en 1940. Mais la population française avait aussi d'autres soucis. C'est qu'à mesure que nous procédions à des attentats, à des sabotages, à des actions contre les troupes allemandes et contre les troupes de Vichy, la population française savait qu'il y aurait des représailles. Et ces représailles s'exerçaient non pas sur ceux qui avaient effectué les attentats ou les embuscades, parce que nous, c'était nous qui faisions ces attentats et les embuscades, on se sauvait, on se cachait. Et c'était les malheureux innocents qui restaient sur place, qui subissaient les représailles.
Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. 2 morts. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. 50 autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts. Un ruisseau de sang coule à nouveau sur la France. La rançon est affreuse. Elle n'atteint pas directement les vrais coupables. L'étranger qui ordonne ces crimes sait bien qu'il meurtrit la France en pleine chair. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés.
C'est vrai. Les représailles, ça existe dans toute armée d'occupation. Moi, j'ai eu, après ça, je me suis trouvé dans une situation inverse à celle de pendant la résistance, en Indochine et en Algérie. J'ai fait partie des armées d'occupation là-bas, contre des résistants qui luttaient pour leur libération. Les armées d'occupation, que ce soit les Allemands en France, que ce soit nous après ça, en Indochine et en Algérie, eh bien, dès qu'il y avait des attentats, nous exercions des représailles. C'est-à-dire que c'était les malheureux, innocents, qui se trouvaient à proximité des lieux d'attentats ou de sabotage, qui trinquaient. C'est une règle militaire, ça. Ça a toujours été dans les temps les plus éloignés, et ça se produit encore aujourd'hui dans les pays où il y a des résistances à l'occupant, comme en Irak, comme en Tchétchénie. Voilà, ah, merci.
Quand un sabotage fait sauter un transformateur, coupe un câble transporteur d'énergie, ce sont les ouvriers français qui chauffent. Ce sont les ménagères françaises qui manquent d'électricité. Ce sont les artisans français qui voient s'arrêter leurs outils. Et quand ces jours-ci, tournant votre commutateur, aucune lumière n'apparaîtra. Quand votre poste de radio demeurera silencieux. Revoyez en fermant les yeux les équipes de jeunes saboteurs enrôlées par Moscou. Les spécialistes espagnols de la destruction scientifique rôdant la nuit, mitraillette à l'épaule vers vos transformateurs et vos barrages.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Il y avait en 1940 4 catégories de Français. Il y avait ceux qui voulaient suivre le maréchal Pétain, qui avaient confiance en lui et qui disaient il va nous tirer d'affaire, il va être assez malin pour faire en sorte que la France trouve son compte dans une collaboration avec l'Allemagne. Il y avait ceux qui tendaient le dos, ceux qui voulaient se camoufler, c'était le terme qui était employé à l'époque. Beaucoup de jeunes disaient « on va se camoufler », c'est-à-dire se planquer dans les fermes, se planquer là où ils pouvaient, et puis ne pas intervenir en aucune façon. c'était les attentistes. Il y avait une troisième catégorie qui était des durs de durs, mais très peu nombreux, du pétinisme, ceux qui étaient au-delà du pétinisme, les émules de Déa, de Doriot, de tous ces fascistes qu'il y a eu déjà avant la guerre et qui se sont manifestés dès 1934 en essayant de renverser la République. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a eu un sursaut de la population française qui les en a empêchés. Le Front populaire a complété cette action. Mais en 1934, les groupements d'extrême droite français voulaient établir un régime semblable au régime allemand et au régime mussolinien. C'était ça leur ambition. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais heureusement pour nous, ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Puis la quatrième catégorie, eh bien, c'était les tout premiers résistants, ceux qui ont suivi De Gaulle, ceux qui ont suivi le Parti communiste à partir de 1941, pas avant, parce que le Parti communiste, au début, il n'a pas été très brillant. Il a accepté le pacte germano-soviétique, mais enfin, après ça, ils ont essayé de se rétablir. Ils ont voulu faire de la surenchère en se montrant parmi les meilleurs résistants. Bon, voilà.
À part la population et toutes les familles, par qui vous avez été réellement soutenu ?
Comment était organisée la résistance ? Elle était formée de gens qui voulaient se battre contre les Allemands, mais qui étaient inorganisés. Il y en avait qui s'étaient regroupés parce qu'ils étaient de même opinion politique. D'autres parce qu'ils étaient de même croyance religieuse. D'autres parce qu'ils étaient de même conviction philosophique. D'autres parce qu'ils avaient des liens professionnels communs. Alors donc, à l'origine, la résistance a été constituée de gens disparates qui s'étaient regroupés de cette façon-là. Ils ont été ensuite, à partir de 1943, regroupés par Jean Moulin, envoyé du général de Gaulle, qui a formé ce qu'on appelait les mouvements unis de résistance, les MUR. Les mouvements. Il y avait les gaullistes. Il y avait le Front National, constitué surtout par le Parti communiste. Rien à voir avec le Front National d'aujourd'hui. C'était l'inverse au point de vue opinion politique. Et la partie active militaire du Front National, c'était les FTP, les francs-tireurs et partisans. Voilà, c'était ça qui constituait l'essentiel des mouvements de résistance. Il y avait aussi l'organisation de résistance de l'armée, qui était également un mouvement. Il y avait Libération Nord et Libération Sud, qui étaient des mouvements qui dépendaient, eux, du Parti Socialiste. Face à ces mouvements qui partaient de la base et qui avaient choisi leur chef parmi eux, il y avait les réseaux, des organisations directives qui partaient du sommet et qui se dirigeaient vers la base, l'inverse des mouvements. La plupart émanaient de Londres. Il y avait un réseau qui dépendait de De Gaulle, qui était le BCRA, Bureau commun de résistance et d'action, qui regroupait tous ceux qui croyaient en une France retrouvée presque comme elle était avant l'arrivée des Allemands et qui croyaient que les armées alliées avec les armées de la France libre de De Gaulle allaient suffire pour rétablir cet ordre ancien. Et puis il y avait les FTP et le Front National qui dépendaient du Parti communiste, qui, eux, avaient une vision un peu différente. Ils, tout comme les gaullistes, voulaient avant tout chasser les Allemands de France, mais qui voulaient aussi établir, non pas restaurer, mais établir un ordre nouveau, différent, qui soit basé sur une fraternité internationale et qui soit l'émanation de ce que Barbusse appelait la République universelle, c'est-à-dire un gouvernement mondial, international, qui soit suffisamment puissant pour empêcher des guerres tous les 20 ans et pour apporter plus de justice sociale. Voilà donc les deux aspects de la politique à ce moment-là, qui étaient l'aspect gaulliste et l'aspect communiste. Moi, j'ai cru à l'aspect communiste, hein, je ne vous le cache pas du tout, hein, j'en ai pas honte, au contraire, j'en suis fier, parce que je pensais que ça partait de sentiments généreux qu'avaient bon nombre de jeunes à ce moment-là. Par la suite, lorsque j'ai vu que le communisme avait dégénéré après les événements de Budapest, de Berlin, de Prague et autres, où les chars russes sont entrés en action contre les peuples qui voulaient rétablir leur liberté, je me suis dit, mais je me suis trompé, hein, le communisme a dégénéré. C'est pas moi qui ai dégénéré, c'est le communisme qui a été dévoyé par ceux-là même qui avaient vocation de le faire triompher. C'était l'opinion qu'avait un certain nombre de jeunes à l'époque. D'autres avaient tout simplement le désir de chasser l'Allemand, mais sans autre préoccupation.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis.
Français, ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles.
Si vous vous faisiez attraper par les troupes allemandes.
Alors là, ça, c'est voilà une bonne question. Hein. Si on était pris par les troupes allemandes avec un fusil, hein, ben avec une arme, on passait au peloton d'exécution immédiatement, hein, mitraillé immédiatement. Si on n'était pas pris les armes à la main, mais simplement comme résistant anti-nazi. Bon, on risquait d'aller en camp de concentration et là-bas, bah, d'y subir ce qu'ont subi les déportés, c'est-à-dire la mort lente. Mais je vais vous donner un exemple de camarades qui ont été pris les armes à la main. Ça se passait au maquis de Souhem, en Sologne, 17 juin 1944. Nous étions 150 maquisards et nous avons été attaqués par plusieurs centaines d'Allemands, 5 ou 600 à peu près. Et le matin du 17 juin, notre chef, qui était le capitaine Makowski, avait envoyé des patrouilles de reconnaissance sur les routes avoisinant le camp pour savoir si les Allemands s'y trouvaient ou non. Parce qu'il y avait des véhicules allemands qui arrivaient de partout autour du camp. Eh bien, 4 jeunes qui avaient été envoyés par Makowski ont été arrêtés par les Allemands, et tous les 4 ont été fusillés. Tous les 4. Il y en a un qui s'appelait André Séné, 22 ans, qui avait été pris avec ses autres camarades par les Allemands qui avaient débarqué de leur camion sur les routes avoisinant le camp. Séné a été placé sur le capot du camion de tête allemand qui partait de la route départementale qui va de Ménestréol à Souhem, qui fait 2,5 km, pour atteindre notre camp. Ils ont placé Séné donc sur le camion de tête, et puis ils lui ont dit, eh bien tu nous préviens à mesure qu'on progresse de la distance à laquelle on se trouve du camp. Et Séné n'a rien dit. Quand les Allemands sont arrivés à environ entre 50 et 80 mètres de nos positions, ils ont été surpris parce que nous avons tiré sur leur première ligne et ils ont eu des pertes. Alors qu'ils avaient déployé leurs soldats de part et d'autre des camions dans les bois qui progressaient. Alors voilà, un type d'héroïsme qui mérite d'être signalé.
Comment vous arriviez à contacter un réseau déjà existant, parce qu'un réseau de résistants, ça se cache. Donc comment on fait quand on a 17 ans pour trouver ces résistants et intégrer leur réseau?
C'était pas facile parce que tout le monde se méfiait de tout le monde. Hein. Nous avions tellement d'exemples d'arrestations dues à des mouchardages, à des dénonciations. Et ma femme a travaillé comme secrétaire à la préfecture de Blois. Elle était secrétaire du chef de cabinet du préfet, et elle m'a dit, c'est fou le nombre de lettres de dénonciation que nous avons reçues de la part de la population. Et son chef de cabinet et elle détruisaient ces lettres. Mais il y en avait d'autres qui les remettaient aux Allemands, et les gens qui étaient dénoncés étaient arrêtés. Donc il fallait se méfier de tout le monde.
La France a failli périr de la juiverie. Mais le danger est-il définitivement écarté? C'est à vous de répondre. Si vous avez été, ou si vous êtes encore les dupes ou les victimes des Juifs, écrivez-nous. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage nous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante. Émission Les Juifs contre la France, 116 Champs-Élysées, Paris 8e.
Pour dérouter ces gens de qui on se méfiait, il fallait être entre nous, entre amis, ne pas parler à tort et à travers, de rester très discret. Ceux qui faisaient partie de la résistance, ils étaient animés du même état d'esprit. Donc, ils ne parlaient pas. Pour les contacter, il fallait que le jeune de 17 ans sache à qui il avait affaire, quelqu'un de confiance, mais il fallait également que ceux auxquels il allait s'adresser aient confiance en lui et sachent que ce n'était pas un mouchard qui venait s'introduire dans ses rangs. Donc, il fallait faire attention. Néanmoins, lorsqu'on était en présence d'amis sûrs, soit d'amis que l'on avait eu l'occasion de connaître dans la vie avant, quoi, professionnellement ou autrement, quand on était en face d'amis sûrs, on était intégrés. Puis après ça, dès les premières actions que l'on faisait, les chefs de la résistance voyaient s'ils pouvaient avoir confiance en nous. Parce que je vous dis, encore une fois, il y a eu beaucoup de réseaux, des mouchards qui se sont introduits et il fallait faire très attention. Oui.
Des fois, est-ce que vous retrouviez les mouchards, ceux qui balançaient les autres?
Comment?
Est-ce que des fois, vous retrouviez les mouchards?
Oui, c'est arrivé.
Et vous leur faisiez quoi?
Bon, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas belle. C'est comme ça. J'étais dans le maquis à Saint-Aignan, puisque j'avais constitué à partir de début 1944 un petit noyau de résistants qui avait grossi et qui était devenue une compagnie, c'est-à-dire une centaine d'hommes, en 1944. Mais dès le mois de mai, nous étions une trentaine, et nous avons été avisés qu'il y avait une femme qui avait dénoncé des Juifs. Ces Juifs, ils étaient 8 ou 9, cachés, camouflés, dans l'hôtel de la Gerbe d'Or à Saint-Aignan. Ils avaient été arrêtés, certains ont été déportés, d'autres ont été exécutés, pas très loin d'ici, à Pontijoux, dans une carrière, avec 10 autres résistants. Comme nous savions que c'était cette femme qui les avait dénoncés, on nous l'a livrée. Elle était dans un bal clandestin avec son chevalier servant, un jeune garçon. C'était au mois de mai 1944. Nous étions sur les hauteurs de Saint-Aignan. On nous les a livrés là-bas. Nous avons constitué un tribunal révolutionnaire, tribunal du peuple. C'était Gaston Marida qui est devenu après ça commandant d'une unité de résistance qui dirigeait l'interrogatoire, et nous avions avec nous un inspecteur de police qui s'appelait Odo. Et nous avons interrogé cette femme. Nous ne l'avons pas torturée, mais on lui a donné quelques gifles pour lui faire comprendre que ce n'était pas la peine de plaisanter. Et on l'a mise devant des éléments indiscutables qui prouvaient que c'était bien elle qui avait dénoncé ces Juifs. Elle les avait dénoncés à son amant, parce qu'elle avait la cuisse légère, cette fille, faut que je vous dise ça, et à son amant de l'époque, qui était un membre français de la Gestapo de Blois. Alors, quand on a eu la preuve de tout cela, qu'elle a fini par avouer, par dire oui, mais c'est vrai, mais j'ai fait qu'exécuter les ordres du maréchal Pétain qui disait que les Juifs étaient des mauvais Français, qu'il fallait les dénoncer parce qu'ils voulaient le mal de la France, ben, je fais qu'exécuter les ordres de Pétain. Bon.
On a délibéré entre nous, on était cinq, je crois. On a délibéré entre nous, et puis à l'unanimité, on a dit on la condamne à mort. Bon. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, on ne faisait pas de cadeaux, hein, c'était. On ne tergiversait pas, c'était ça où. Et puis alors, la relâcher, comment la relâcher? Elle serait allée nous vendre à ses amis allemands. Ah non, tant pis, allez, hop, on la liquide. Et on a dit, bon, ben, quel est celui d'entre nous qui va se charger de ça? On ne va pas la mettre devant un peloton d'exécution, cette jolie fille, là, avec des fusils, puis la mettre en joue, puis la tuer comme ça. Oh là là, ça nous. Alors on a dit, non, ça ne va pas être très beau, mais tant pis, on va lui filer une balle dans le dos, et puis on va la tuer comme ça. Alors on dit, ben, on va tirer à la courte paille pour savoir celui d'entre nous qui va avoir cette douloureuse charge. On faisait tous les quatre la grimace, tous les cinq la grimace. À ce moment-là, est sorti des rangs, parce qu'il y avait pas mal de nos camarades qui assistaient à l'interrogatoire. On a vu sortir son chevalier servant, le jeune homme qui était avec elle, qui avait été pris avec elle dans le bal clandestin, et qui est venu nous trouver en disant, moi, je revendique de l'exécuter moi-même. Alors là, on n'en est pas revenu, on s'est dit quoi? Il m'a dit oui, parce qu'il dit, je ne savais pas du tout ça d'elle, je croyais qu'elle était complètement opposée aux Allemands, comme je le suis moi. Il est possible que, étant resté un certain temps avec elle, elle m'ait dénoncé à un de ses amis allemands comme elle l'a dénoncé les Juifs. Alors, je demande à l'exécuter. Maintenant, il avait peut-être aussi une autre raison plus égoïste, en se disant, en donnant ce gage-là, je vais sauver ma peau. C'est pas impossible, ça. On ne le saura jamais parce qu'il a été tué quelques jours après. Bon. Et donc, c'est lui qui l'a exécuté. Voilà. Un exemple. Bon, mais il y en a eu d'autres. Hein. Par exemple, à Celles-sur-Cher, le commandant Boisieu, il en a fait exécuter plusieurs qui avaient dénoncé des Français. Le commandant Perrault, qui était à Châteauvieux, a fait la même chose lui aussi. Il y en a eu plusieurs, des mouchards comme ça qui ont été exécutés. Bon, d'autres questions?
Que ressentiez-vous par rapport à ça, le fait d'exécuter des gens ou même de perdre des compagnons?
Quel effet ça me fait aujourd'hui d'avoir exécuté des gens?
Oui.
Oui, ben, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais vous dire que sur le moment, je ne l'ai pas regretté. Du tout. Et puis aujourd'hui, je le regrette. Ouais. Je le regrette parce que lorsque j'ai vu par la suite tous ces gens qui sont passés à travers les mailles du filet de la répression, tous ces gens qui avaient fait 10 fois plus que cette fille et qui n'ont pas été condamnés, hein, eh bien, je me dis qu'elle faisait partie des lampistes, même si ce qu'elle a fait était très mal, elle méritait peut-être pas la mort, elle méritait peut-être une sanction ou autre, mais laquelle lui donner quand on était dans la clandestinité, dans un maquis? C'est ça le problème. Pour ça que je vous dis, sur le moment, je ne l'ai pas regretté, et ce serait à refaire, je ferais certainement la même chose, mais avec le recul, je le regrette, parce que je pense que cette fille aurait eu sa place après ça dans la société, en ayant fait amende honorable.
Quel conseil donneriez-vous à des jeunes entre 14 et 18 ans qui aimeraient entrer en résistance? Quelle qualité pour vous, principale?
Alors, si vous vous trouviez aujourd'hui dans cette position-là, eh bien, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais j'ai simplement le devoir de vous dire, inspirez-vous de ce que nous avons fait, essayez de vous placer dans notre situation à l'époque, de voir comment nous avons réussi à nous mettre face à cette situation-là, face à cet ennemi-là, parce qu'il ne faut pas l'appeler autrement, hein, cet ennemi, et puis à lui résister, et puis trouver tous les moyens pour le faire. Voilà, alors ça, c'est donc l'aspect extrême. Mais il y a un autre aspect qui est celui dans lequel vous êtes actuellement, et c'est celui qu'on évoque
Très souvent, lorsque nous recevons des classes au musée de la Résistance, nous leur disons, voilà, aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'entre vous sont anxieux face à l'avenir. Vous voyez devant vous la pollution dans tous les domaines, pollution physique, pollution morale. Vous avez devant vous des méthodes que vous désapprouvez, des méthodes de financiers, par exemple, qui veulent ramasser le plus d'argent possible. Vous avez des méthodes de dictateurs ou d'apprentis dictateurs, comme, disons, le Front National d'aujourd'hui, hein, pas celui d'avant, voudrait faire passer. Vous avez tout cela devant vous qui vous met dans l'anxiété. Que devons-nous faire? Alors, nous leur disons, nous n'avions pas de solution toute faite, mais nous avions, au fond de nous, l'espérance que nous avons toujours eue, que nous viendrions à bout des mauvais génies, et que la phrase de Gaulle, « La flamme de la résistance ne s'éteindra pas », doit subsister en vous, et vous faire dire, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser atteindre par cette anxiété, il faut réagir, et il y a des moyens de le faire, on peut se regrouper entre nous, et puis dire, eh bien voilà, on ne veut pas que notre avenir soit gâché par tous ces mauvais génies qui voudraient le faire, et nous devons nous unir pour trouver des moyens de former une jeunesse nouvelle qui soit à la hauteur de nos espoirs.
Et voilà les amis, c'est ici que s'achève l'une des dernières interventions publiques de Pierre Alban Thomas, homme humble et exceptionnel, qui nous a quittés le 20 décembre 2016. Après la résistance, il vous l'a dit, Pat, l'ancien maquisard, s'est retrouvé soldat occupant et combattant contre d'autres résistants qui eux aussi voulaient l'indépendance de leur pays, l'Indochine, l'Algérie. Et cette triste histoire, Pat vous la raconter dans une série d'émissions en écoute sur notre site polemix et la voix-off.com. En attendant un nouveau rendez-vous avec lui pour une visite qu'on a faite ensemble en 2015 au musée de la Résistance et de la Déportation de Blois, un de ses jours sur cette même antenne. Salut!